Europe 1. On de la raconte. Christophe On de Latte.
Si vous êtes un peu stressé aujourd'hui, voici une histoire qui va vous détendre. Une histoire apaisante pour une fois. Très apaisante. Et aussi d'ailleurs, je vous le dis, une histoire qui fera le bonheur des enfants, si vous en avez. L'histoire de Geoffroy Delorme, qui a vécu pendant 7 ans dans une forêt avec des chevreuils. Il raconte tout ça dans un livre aux éditions Les Arènes, L'homme chevreuil. Et notez que pour une fois, je vous propose 2 versions de ce récit. Une version normale, habituelle, celle qui va suivre, et une version chuchotée, pour tous ceux qui veulent s'endormir ou se détendre, avec une très belle histoire. Cette version chuchotée, vous la trouverez sur europe1.fr ou votre application de podcast. Voici L'homme chevreuil, une histoire que j'ai écrite avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe On de Latte.
Tout gamin, depuis ma classe du cours préparatoire, je contemple le monde sauvage par la fenêtre. Les moineaux, les rouges-gorges, les mésanges, tout animal qui passe dans mon champ de vision. Et moi, je suis enfermé dans cette pièce avec d'autres enfants qui apparemment s'y plaisent. Et eux, ils sont libres. Je ressens déjà un bourgeon de mutinerie contre une vision humaine dans laquelle on essaye de m'enfermer. Quelques mois après la rentrée, un événement vient cristalliser ce bourgeon de rébellion. Une sortie à la piscine. Arrivé devant le bassin, je suis tétanisé. C'est la première fois que je vois autant d'eau. Une peur instinctive m'envahit.
Allez, Geoffroy! Allô?
Le visage de la monitrice se crispe.
Allez, Geoffroy, tu plonges!
Et là, elle s'approche de moi, elle me prend par la main et elle me jette dans l'eau. Je bois la tasse, évidemment, et je commence à couler. Quand je la vois plonger dans ma direction, je me dis, elle va me tuer. Et là, mon instinct de survie me pousse à réaliser l'impensable. Je nage comme un petit chien jusqu'au milieu de la piscine. Je plonge pour passer le filet qui me sépare du grand bassin. J'arrive jusqu'au bout, je grimpe à l'échelle, je cours jusqu'au vestiaire, je me rhabille, je me faufile jusqu'à la sortie et je dévale la rue en courant, le regard brouillé par les larmes et le chlore. À la suite de cet incident, on décide de me faire arrêter l'école. Je poursuivrai ma scolarité à la maison grâce au CNED. Je me retrouve donc tout seul dans ma chambre, sans copain, sans prof, avec heureusement une grande bibliothèque qui contient des trésors. Nicolas Vanier, Cousteau, Diane Fossé, Jane Goodall. Autant de livres qui racontent la nature et la vie sauvage. Un matin, je découvre que des merles ont fait leur nid dans la haie en face de ma chambre. Dans mon cerveau, ça devient une injonction absolue. Je dois veiller sur eux. Éloigner les chats, notamment. Et du coup, de jour ou de nuit, j'ouvre ma fenêtre et je me glisse à l'extérieur pour prendre des nouvelles. Et à force de me voir, ils s'habituent à moi. Alors je leur donne à manger des miettes de pain, des vers de terre, des insectes. Et chaque jour qui passe, je gagne un peu de leur confiance. Je peux désormais regarder piailler les bébés à 20 cm d'eux. Depuis quelque temps, un renard vient dormir sous un arbre touffu de notre jardin. Un soir d'hiver, je décide de le suivre. Je ne me suis jamais autant éloigné de ma chambre. Une centaine de mètres plus loin, en lisière de forêt, le jeune goupil me dévoile l'entrée de son terrier. Je trouve la forêt fascinante, envoûtante. Alors tous les soirs désormais, je m'aventure un peu plus loin. Et une nuit, je tombe nez à nez avec un cerf. Ça me pétrifie. Je les ai déjà entendus bramer l'été. Mais ce corps lourd, à moins de 10 mètres de moi, le sol qui vibre à chacun de ses pas. Je suis subjugué par la puissance qui se dégage de cette créature. Il finit par faire demi-tour, et moi je fais de même. Mais ce cerf m'a donné la plus belle leçon de ma courte vie. Les animaux ne me veulent aucun mal. À l'âge de 16 ans, je prends la décision de passer non seulement mes nuits, mais aussi mes journées en forêt. Et le jour du bac, je décide de saborder le navire scolaire. Je jette ma feuille de convocation dans un champ de maïs. À la maison, on me dit que ce que je fais n'est pas un métier. On ne peut pas en vivre, Geoffroy. On ne peut pas en vivre, enfin. Mais l'argent n'est pas ma priorité. Je cherche une stabilité morale. Vivre le moment présent à l'image des animaux de la forêt. Me mettre à ma vraie place dans l'ordre des choses. Évidemment, personne ne croit en moi. Je n'ai aucun soutien. Mais plus on cherche à me retenir, plus les liens s'effilochent. Alors c'est décidé, je pars en forêt. Il y a une fable de La Fontaine qui décrit assez bien ce que je ressens à ce moment précis. Le loup et le chien. Une fable dont la morale est « mieux vaut être pauvre et libre que riche et contraint ». Mon expédition commence au mois d'avril. Ma forêt est une forêt de 4500 hectares dans le département de l'Eure, la forêt de Louviers, qui épouse la quatrième boucle de la Seine. Je choisis de m'installer à l'est, sur un grand promontoire qui domine toute la vallée de la Seine. Avec mes économies, j'achète des boîtes de conserve, de l'eau potable et tout un tas d'outils dont j'ai l'impression d'avoir besoin pour survivre. Et je cache tout ça au pied d'un arbre dans un entrelac de racines. Hélas, quelques jours plus tard, les sangliers découvrent mon trésor. Et ils s'en délectent, hein. Je retrouve toutes les conserves éventrées par leurs sabots. Les sangliers qui, d'une certaine manière, me disent « Non, mais tu te crois où ?» J'en conclus que la stratégie la plus efficace consiste à manger le plus possible ce que j'ai à ma disposition. Les feuilles d'orange, de bouleau, de charme, les baies, les châtaignes, les noisettes. Bref, énormément de plantes plus ou moins bonnes au goût, mais formidablement riches en nutriments. Et puis, il y a la nourriture que les chasseurs déposent au pied des arbres pour engraisser les sangliers. Des pastèques, des courgettes, des tomates, et aussi du pain. À partir de maintenant, les aliments extérieurs ne servent plus qu'en cas de disette. Là, la plus vulgaire boîte de raviolis m'offre désormais un moment de fête. Les sangliers, les cerfs, les biches et les renards que je croise m'acceptent de plus en plus en gardant leur distance. Au bout de quelques mois, j'ai l'impression de m'être fondu dans le décor. Un matin, je suis en train de ramasser quelques feuilles à grignoter sur le bord d'un chemin quand un chevreuil s'arrête net à quelques pas. Il redresse la tête, il pointe ses oreilles dans ma direction, nous nous fixons l'un l'autre pendant quelques minutes. Il regarde sur le côté comme pour m'inviter à découvrir la forêt avec lui. Il se détourne lentement et il s'enfonce dans le taillis. Je viens d'être touché par quelque chose de plus fort que moi. L'appel de la forêt. Ce chevreuil, je le baptise Daguet. Et quand je le croise à nouveau, il choisit de rester pour m'observer. Moi, je fais mine d'ignorer sa présence. Le soir, je tombe à nouveau sur lui. L'air de rien, il me suit partout, comme s'il voulait apprendre sur ce nouveau venu qui s'est invité chez lui. Et de jour en jour, notre relation grandit au gré de nos rencontres. Aujourd'hui, je vais essayer de marcher derrière lui. Il est en train de ruminer, couché au pied d'un arbre. Je m'approche doucement, en ramassant de ci de là quelques feuilles. Je me cache derrière chaque arbre pour ne pas me faire remarquer. J'approche doucement, à moitié accroupi. Et lui, il me regarde calmement, c'est à peine croyable. Quand j'arrive à une dizaine de mètres, il se lève, il s'étire, Il m'observe et nous restons plantés là pendant une bonne demi-heure. Il m'a intégré à son environnement. Un moment absolument magique. Pourvu qu'on ne soit pas dérangé par d'autres humains. Ce serait terrible s'il ne m'associait à eux. La nuit, je suis sans cesse réveillé par des chouettes qui ululent, par des renards qui hurlent, et surtout par les sangliers qui font un vacarme ahurissant. Et ça grince, et ça crie, et ça grogne, et ça court dans tous les sens. Impossible de dormir. Ajoutez à cela le froid, je suis rincé. Au point d'ailleurs de mettre sérieusement en question l'issue de mon aventure. Je ne me repose jamais. Dans la journée, je cherche ma nourriture. Je construis de petits abris pour me protéger de la pluie. Ça me prend un temps fou. D'autant plus que ces abris sont rapidement envahis par les insectes et qu'il faut les refaire tous les jours. Un matin, je remets tout à plat. Il y a forcément quelque chose que je fais mal. Et c'est en observant Daguet que je trouve mes réponses. Chez les chevreuils, le repos se fait par cycle court, de jour comme de nuit. 1 à 2 heures en moyenne, en fonction du temps qu'il fait. Il me faut calquer mon rythme de vie sur celui de mon compagnon d'aventure. Il n'est pas obligatoire de dormir la nuit. Alors je dors la journée, par plage de 2 heures. Et je me remets à constituer des réserves de bois un peu partout dans la forêt. Pour pouvoir faire du feu n'importe où, à n'importe quelle heure. Un nouvel homme en moi est en train de naître. Malgré le froid, les caprices de la météo et la faim, il faut que je limite l'entrée du monde moderne dans la forêt. Ne garder que le strict nécessaire. D'abord des vêtements de rechange pour lutter contre le froid. 2 pantalons en toile, 1 paire de jeans, 2 sous-pantalons en alpaga, des t-shirts en lin ou en chanvre, des pulls en laine vierge et 2 bonnets de marin. J'ai abandonné le coton qui semble impossible à faire sécher. Pour éviter que tout ça ne pourrisse, tout est enfermé dans des sacs hermétiques, enterrés dans un coin stratégique de la forêt. Pour la cuisine, j'ai une poêle, une casserole et un couteau de survie. J'ai aussi un chargeur solaire pour mon appareil photo, un briquet, ma carte d'identité et un petit miroir. C'est très utile un miroir pour diagnostiquer par exemple une piqûre d'insectes mal placée. L'hiver, il y a moins à manger. Alors il faut apprendre à stocker. Ortie, menthe, origan, reine des prés, angélique. Je les mets le jour dans un filet à provisions accroché à une branche pour sécher et la nuit dans un sac hermétique. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an, j'atteins l'autonomie alimentaire. Bon, je retourne encore de temps en temps à la civilisation, hein. 2 ou 3 fois par mois pour reprendre des forces. Les plats que je trouve dans le frigo de mes parents sont toujours aussi appétissants. Mais j'ai de plus en plus de mal à les digérer. J'en profite pour récupérer 2 ou 3 boîtes de conserve. Je dors quelques heures dans mon lit d'enfant. Je prends une bonne douche chaude. Est-ce que je fais une lessive? Non. Je ne veux pas importer l'odeur du monde des hommes dans la forêt. Ça rendrait mes amis chevreuils trop nerveux. Et puis je repars au lever du jour en évitant de croiser mes parents qui réprouvent toujours ma nouvelle vie d'homme des bois. Vous vous demandez, je suppose, comment j'aborde les questions d'hygiène. J'ai un atout, je suis un imberbe. Et une toilette régulière des pieds, des aisselles et des parties génitales devient amplement suffisante. Mais comment trouver de l'eau pour me laver? J'ai localisé 4 hêtres magnifiques de 40 mètres de haut qui forment en leur centre un gros chaudron, lequel chaudron retient parfaitement l'eau de pluie. Cette réserve est suffisante pour ma petite toilette. De quoi j'ai l'air? Oh, les premiers mois, les insectes ne me font pas de cadeaux, hein. Mais avec le temps, la peau se durcit, elle s'épaissit. Quant à l'hygiène bucco-dentaire, comme je ne mange plus de sucre, ce n'est plus un problème. Je me contente de passer mon index sur mes dents avec un mélange d'eau et de cendre. Et le tour est joué. Daguet m'apprivoise de plus en plus. Maintenant, il vient même jusqu'à mes pieds pour renifler l'odeur de mes chaussures. J'ai remarqué qu'il regarde surtout mes mains quand il approche. Il a peut-être peur qu'elle ne l'attrape. Mais je ne cherche pas à le caresser. Et Dieu sait si la tentation est grande. Un matin, très tôt, il fait très sombre. Le jour peine à se lever dans la grisaille ambiante. Et j'entends de petits bruits, comme des chuchotements. Daguet, qui a une ouïe extraordinaire, les capte aussitôt. On s'avance, il s'arrête, il hume l'air, il semble intrigué. Pas de la peur, hein, de la curiosité. Et on arrive dans la pinède, où règne un autre chevreuil que j'ai baptisé Six Pointes. Celui-là, il est très territorial, et il a un sacré caractère. Je le surnomme aussi le gueulard, parce qu'il aboie sur tout ce qui bouge. Six Pointes a une compagne, une magnifique petite chevrette au corps élancé que j'ai baptisée Étoile. Et ce matin-là, justement, j'aperçois Étoile dans l'obscurité ambiante. Elle est seule et couchée. Six Pointes n'est pas là. Quand elle voit Daguet, elle renifle d'abord dans notre direction. Elle se lève. Elle trotte péniblement vers nous en aboyant faiblement. Elle n'a pas l'air du tout en forme. Elle se recouche à une dizaine de mètres de moi avec l'air de s'endormir un peu. Un long moment plus tard, elle se lève péniblement et elle se met à trembler de tout son corps. Pourvu qu'elle n'ait rien de grave. Et là, elle gémit. Et un mince filet liquide coule de son arrière-train. Elle est en train de me faire le plus beau cadeau de la vie. Elle est en train de mettre bas. J'assiste à la naissance de petits fans. Deux pattes tremblantes toutes raides qui pendent dans le vide. Je suis tellement heureux et tellement proche que j'irai presque l'aider à accoucher. Elle pousse, l'effort est intense. Et d'un coup, un jeune fan sort et tombe par terre. « Bienvenue sur Terre, mon petit bonhomme. C'est un petit mâle. Je l'appelle Chevy. » L'été est bien avancé. Il fait chaud. Le ciel est d'un bleu profond et le soleil brille. Pour se réchauffer, Daguet décide d'aller se coucher dans les hautes herbes d'une clairière. Moi, j'en profite pour emprunter des pastèques et des melons que des chasseurs ont déposés auprès d'un jeune pommier. Et puis à mon tour, je vais me coucher dans la clairière. Et là, se passe quelque chose d'exceptionnel que je n'attendais pas du tout. Daguet vient se blottir contre moi. Je sens son corps tout chaud contre ma jambe. Et j'ai très envie de le caresser, mais j'ai trop peur qu'il n'aime pas, que ça lui coupe l'envie de recommencer. Il relève un peu la tête, il bâille, et il repose sa tête sur ma cuisse. Et là, j'en profite pour lui caresser un peu la joue avec mon pouce. Il semble apprécier. Alors, je pose ma main sur son dos et je le caresse longuement en observant sa réaction. Il se détend, il ferme les yeux et il finit par s'endormir. Et même à certains moments, il gémit un peu, il donne de tout petits coups de patte. Il est en train de rêver. Pas un bruit ne vient perturber la plénitude de ce moment. Et puis soudain, des promeneurs. Des promeneurs qui ont l'air de vouloir traverser la prairie. Ils se dirigent droit sur nous. Ils arrivent à notre hauteur. Et Daguet dort toujours. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il n'a pas bougé d'un poil. Je n'en reviens pas. Par une longue nuit d'automne, je suis en train de marcher avec Étoile. Depuis plusieurs jours, il pleut, sans discontinuer. Étoile mange quelques chanterelles, et moi je prends les restes au fond de ma gamelle. Et à un moment, je sens quelque chose d'étrange qui vibre sous mes pieds. Et soudain, un coup de fusil déchire le silence de la forêt. Aussitôt, je cherche Étoile du regard, elle est paniquer. Et la terre sous mes pieds continue de vibrer de plus en plus fort. Et là, j'aperçois dans un galop désorganisé une vingtaine de cerfs et de biches qui foncent dans ma direction. Un deuxième coup de fusil résonne. Et une balle effleure étoile. Elle passe à côté de moi en aboyant et elle s'enfuit de toutes ses forces. Et moi, je me lance à sa poursuite. J'ai beaucoup de mal à la suivre. Je ralentis. Elle ralentit. Je la vois tituber un peu. Je m'approche d'elle. J'essaye d'évaluer la gravité de sa blessure. Et là, au loin, j'entends un cor de chasse sonner 4 coups. C'est le signal du chevreuil. Et au loin, les chiens de chasse sèment la terreur dans le sous-bois. Et Étoile s'élance à nouveau, elle bondit du mieux qu'elle peut, et les chiens arrivent, et les chasseurs débarquent, et moi je me dis, mon odeur trompera peut-être le flair des chiens. Et ça marche, ils s'éloignent. Mais moi je suis inquiet pour mon ami. Je retourne la voir. Ma pauvre Étoile. Elle est couchée devant moi à quelques mètres, mortellement blessée à la poitrine. Elle tremble. Moi, je lui parle, en essayant d'avoir une voix rassurante. Je te remercie, ma petite étoile. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Pour tes connaissances. Pour ton amitié. Pour ton respect. Pour ton amour. J'ai des larmes plein les yeux. Une sorte de haine m'envahit. Et peu à peu, la vie se retire de son corps. Pardonne-moi, étoile. J'ai pas su te protéger. J'ai pas été assez fort. Pardonne-moi. Je te promets que je veillerai sur Chéri. Je te promets, ma grande. Je sais que les chasseurs vont la chercher avec leurs chiens. Ils pisteront sa trace jusqu'à ce qu'ils retrouvent son cadavre. Alors je la prends dans mes bras et je vais l'enterrer. Je ne veux pas que mon ami finisse dans un congélateur. Une nuit, alors que tout est tranquille, je décide de retourner à la maison. J'y vais toujours la nuit pour ne pas croiser mes parents. Aujourd'hui, j'y vais pour prendre une douche chaude. Mais aussi parce que j'ai un mauvais pressentiment. Ça fait un moment que je n'ai pas quitté la forêt. Je marche sur le trottoir le long de la rue, éclairé par de vieux lampadaires. Le portillon de la maison est fermé à double tour. Je passe par-dessus. J'insère ma clé dans la serrure de la porte d'entrée. Quelque chose bloque. Impossible de l'ouvrir. Alors je décide de passer par la porte du garage. Et me voilà à l'intérieur. Je vais vers le réfrigérateur. Vide. Je regarde dans les placards, vides, eux aussi. Mais certains sont fermés à clé. Ils ont dissimulé la nourriture. Je repars les larmes aux yeux. C'est la dernière fois que j'y retourne. Et je vais retrouver ce que je considère maintenant comme ma famille. Les chevreuils. Dès mon retour en forêt, je veux voir Chéri, le fils d'Étoile, ce petit mâle que j'ai vu naître. Avec lui, j'ai maintenant un degré de complicité auquel je n'ai jamais eu accès avec les autres chevreuils. Comme si on se connaissait depuis toujours. Il m'a intégré dans sa vie. Grâce à lui, je me sens un peu chevreuil. Et ce soir-là, je veux le voir. Je veux lui confier ma peine. Mais je ne le trouve pas. Les heures passent, je ne le trouve pas et la déprime me gagne. Et puis enfin le voilà. Le voilà debout qui m'observe. Je cours vers lui à toute allure sans réfléchir. Et je l'agrippe. Je mets mes deux mains autour de son cou et je me mets à pleurer sur son épaule. Il reste immobile pendant de longues minutes. Je sens son cœur qui bat contre ma joue. Et il se met à me lécher le visage. Chéri est plus qu'un ami. Chéri est un frère. J'ai découvert une personne non humaine, pour qui j'ai une incroyable estime. Au fil de ces années passées dans la forêt, à cause de mon alimentation sans doute, je ressens une fatigue musculaire. Un jour, il pleut légèrement avec un vent glacial, je m'endors derrière un gros arbre. À mon réveil, je ne sais plus où je suis, ni qui je suis. Tous mes membres sont paralysés, impossible de me lever. Chevy vient me lécher le visage, comme d'habitude après la sieste. J'essaye de me lever, je suis cloué au sol. Alors je m'agrippe à une branche, je parviens à me mettre debout. Là, je vomis. Et puis j'allume un petit feu de feuilles mortes et de brindilles. Je m'en veux de m'être laissé aller comme ça. Ça aurait pu me coûter la vie. Ma vie, je veux la passer auprès de mes amis chevreuils. Et peu importe si elle est courte. Mais si je veux les sauver de la destruction de ce monde qui devient fou, je dois rester en vie pour raconter leur histoire. Un jour, j'aperçois au loin une personne qui promène son chien. Et pour la première fois depuis que j'ai choisi de vivre en forêt, je décide d'aller vers elle.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. C'est une promeneuse. Son chien est un petit berger des Pyrénées.
Je préfère vous prévenir, il y a un gros sanglier qui se balade un peu plus haut, là. Pour votre sécurité et celle de votre chien, faudrait mieux que vous fassiez demi-tour, hein.
Ah, d'accord, merci. Vous connaissez bien la forêt ?
Oui, je suis photographe animalier.
Et là, je commence à lui parler de mes chevreuils.
Oh, c'est passionnant. Vous devriez exposer vos photos pour faire connaître la vie des chevreuils.
Un sentiment étrange m'envahit. Un sentiment que je n'ai jamais ressenti. Cette femme qui aime les animaux et la nature me touche. Quand je retourne auprès de Daguet, son visage revient en mes pensées. Et le souvenir de son odeur ne me quitte plus. Et voilà comment je reprends contact avec la civilisation. Et comment j'organise ma première exposition. Mon aventure ne sera plus jamais solitaire. Elle sera la seule à rencontrer mes amis. Désormais, nous sommes au moins deux à connaître le monde extraordinaire des chevreuils.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.